C'est le texte de conclusion de ce cycle. Ça m'amusait de mettre en dernier le texte le plus vieux, 1511. Voilà, quand on ouvre cette boîte-là, 1511, Renaissance, il faudrait 19 heures de conférence. En plus, c'est une période qui m'est chère. Je vous avoue que le projet de ce cycle de leçons, c'est que je vous parle des livres qui ont compté dans mon travail d'écriture. Et de fait, au-delà des livres, la période de la Renaissance, c'est une période qui a beaucoup compté pour moi. J'ai passé au moins 2 ans dessus, voilà, 2 ans d'études, plongé dans les richesses et les complexités de cette période. Quand j'ai choisi Erasme au moment de constituer ce programme, c'est parce que il y a dans l'Éloge de la folie, qui est un texte de la première Renaissance française, à l'époque, la Renaissance commence tout juste en France, elle est lancée en Italie depuis un moment, mais en France ça commence tout juste, il y a déjà tout dedans. Il y a tout le programme de la Renaissance dans l'Éloge de la folie. Donc c'est un genre de résumé, de talisman, de tout ce qu'on peut tirer de formidable de cette période. Ce programme, il termine par un autre grand maître, peut-être le plus respecté de tout le programme, pas seulement en France. Erasme, c'est une figure européenne. On dit Erasme de Rotterdam, donc Pays-Bas, mais c'est quelqu'un qui n'appartient à aucun pays. C'est vraiment un Européen. Il passe son temps à se balader entre l'Italie, la France, Londres, Bâle. Il voyage tout le temps. Et il travaille tout le temps. Donc par rapport à Diderot, par exemple, qui est un autre grand auteur patrimonial, Erasme est moins enfermé dans cette espèce de panthéon franchouillard. Il appartient pas vraiment aux Français, les Français ont une manière de l'honorer, de le respecter, de le transmettre à l'école qui me semble plus vivante. C'est moins difficile d'accéder à Erasme qu'à Diderot. Diderot, il est quand même très plombé par l'encyclopédie, par le côté moral, philosophe des Lumières. C'est pour ça que j'aime tant le Neveu de Rameau, parce que là, ça tremble, c'est une espèce de vitalité dans le Neveu de Rameau qui échappe à la figure patrimoniale de Diderot. Bon, un des exemples amusants mais symboliques de cette figure européenne que représente Erasme, c'est qu'on envoie nos étudiants aux quatre coins de l'Europe à travers un programme qui s'appelle comme ça, qui porte son nom, Erasmus. C'est le moment de se souvenir que c'est pas un hasard. Bien trouvé, ouais. Et pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ça, les Anglais, pour ce programme européen? Parce que Erasme, c'est le type même de l'humaniste de première génération. Donc, il naît avant le tout début du XVIe. Il est né probablement en 1469. Ça n'a pas été bien enregistré, notamment parce qu'il est né hors mariage. Ce qui explique peut-être des résurgences par rapport à la question de la famille dans l'Éloge de la folie. C'est un humaniste au sens strict. Il y a au moins 2 sens à humaniste qu'il faut distinguer. C'est-à-dire que c'est un érudit du XVIe siècle qui participe à la redécouverte de textes antiques. Un humaniste au sens strict, c'est ça. C'est quelqu'un qui relit des vieux bouquins, qui apprend des langues que plus personne ne parlait et qui profite de cette formidable invention technique qu'est l'imprimerie pour que ces textes qu'on redécouvre mais inondent littéralement l'espace intellectuel européen. Donc c'est l'un des premiers à faire ça, Erasme, à replonger dans des langues incroyables. Il parle latin et grec, bien sûr, j'allais dire, pour quelqu'un de sa génération, mais il va se former aussi à l'hébreu et à l'araméen, ce qui était plus rare. Et c'est aussi un humaniste au sens large, c'est-à-dire quelqu'un qui reste porteur d'une conception optimiste de l'homme. Pour le dire trop vite, mais voilà, c'est quand même quelque chose à rappeler. Le XVIe siècle, c'est ce siècle florissant de François Ier, des arts, des jardins, des châteaux, mais c'est aussi une des premières très grosses boucheries en Europe. Et conserver une conception optimiste de l'homme au XVIe siècle, c'est fort. Le XVIe siècle, c'est la dernière très grosse guerre civile française, qui est européenne. En France, ça a été terriblement sanglant, mais c'est les guerres de religion. Bon, je vais détailler ça, hein, mais je vais le signaler dès maintenant. C'est l'une des conséquences de ce besoin de réforme qui se fait ressentir à l'intérieur de l'Église catholique et qui fait qu'on va aller de la réforme au schisme, que va émerger cette pratique qui s'appelle le protestantisme et qui porte bien son nom, laquelle va être sévèrement, très sévèrement réprimée, au moins jusqu'à la fin du XVIIe siècle en France. Et Erasme a sa part de responsabilité là-dedans, même s'il ne va jamais devenir protestant. L'Éloge de la folie, qu'est-ce qu'on peut en dire comme ça, en un mot d'introduction? D'abord, c'est son texte le plus célèbre. C'est le seul qui n'a jamais été mis à l'index, même quand Erasme est sorti de l'odeur de sainteté au moment de la contre-réforme en France, quand le pouvoir a décidé qu'il allait passer à la vitesse supérieure pour réprimer le protestantisme. Pourquoi est-ce que ce texte est resté accessible, même dans les moments de grande censure? Je crois que c'est parce qu'il est léger, que même dans sa critique, très acerbe parfois, de l'Église catholique par exemple, il reste drôle, pétillant, ça reste un texte de jeunesse d'Erasme, puis c'est virtuose, ça circule, ça avance, on va y venir à cette virtuosité. Donc c'est publié en latin, en 1511, sous le titre « Soutitiae Laos ». Le titre grec circule aussi un moment, même s'il n'y a jamais eu de version grecque, intégrale, « Morias en commune ». Donc c'est littéralement la même chose, « Éloge de la folie », à chaque fois. Laos, on va voir que c'est un mot important. Le mot éloge aussi, on va s'arrêter dessus, bien sûr. Bon, et avant d'attaquer ma proposition de lecture en tant que telle, je voulais juste souligner que c'est d'abord pas le premier éloge qu'on lit à l'intérieur de cet atelier, puisqu'on s'était pas mal attardé sur cette fonction-là dans le texte de Walt Whitman. Feuille d'herbe, c'est un éloge. C'est le premier éloge qu'on a travaillé ensemble. Et vous allez voir, c'est le même dispositif, c'est une auto-célébration. C'est la personne qui fait l'éloge, qui est aussi le sujet de l'éloge. Donc Walt Whitman ne s'est pas forcément souvenu de l'éloge de la folie en écrivant Feuille d'herbe, mais voilà, j'essaie toujours de vous montrer qu'il y a des récurrences en fait dans ce qu'on étudie et que tout ça, ça fait des strates au fur et à mesure. Il y a aussi deux points communs entre ce texte qu'on va étudier aujourd'hui et celui de la dernière fois, Le neveu de Rameau. C'est d'abord Lucien, Lucien de Samosate, dont on a parlé de la dernière fois, disons philosophe grec, grec tardif, spécialiste de la satire, j'y reviendrai, qui était déjà un modèle de Diderot, mais qui est un modèle encore plus fort pour Erasme. Et puis il y a un autre grand trait d'union entre ces deux textes, c'est le livre fondamental de Michel Foucault, L'histoire de la folie à l'âge classique, qui part de la Renaissance, donc avant l'âge classique, notamment à partir du bouquin d'Erasme. En disant, voilà, avec Erasme, il y a quelque chose qui se clôt dans la représentation de la folie telle qu'elle se figurait au Moyen-Âge, et on va passer à autre chose. Et puis, il récupère le neveu de Rameau plus tard, en disant, voilà, dans le neveu, c'est pareil, il y a un point de bascule, il y a une rupture. On sort de l'âge classique. Parce que le neveu, il n'est pas clinique. C'est pas un fou clinique. Mais pourtant, il garde quelque chose d'inquiétant, comme les fous cliniques. C'est pas juste un bouffon, c'est pas juste un amuseur. Et c'est pas non plus un cinglé profond. C'est une espèce d'oscillation qui annonce, par exemple, Antonin Artaud ou Friedrich Nietzsche, qui sont pour Foucault les figures tutélaires de la folie telle qu'on l'aperçoit aujourd'hui. Donc j'ai deux grandes propositions à vous faire à propos de ce texte. C'est d'envisager d'abord comment travaillent ensemble l'éloge et la satire. On revient sur cette question de la satire qui nous occupait la dernière fois déjà. Et puis j'aimerais qu'on envisage ce texte comme une réforme. Qu'on prenne le mot réforme au sens propre. L'éloge de la folie, c'est un appel à la réforme, c'est-à-dire, et ça ce sera pour moi un point important, c'est-à-dire un appel à un certain retour, une reforme, ce qui est une façon d'envisager la réforme qui pourra nous être utile, un peu différente de ce qu'on entend de la plupart, disons amélioration. Dans le sens courant, une réforme c'est une amélioration. Mais la réforme, ça ne veut pas dire ça d'abord. La réforme, ça veut dire le retour d'une forme primitive. Donc cet éloge qui y est présent dès le titre, affiché, laos en latin, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les fonctions remplies par un texte d'éloge? Il y en a au moins deux dans l'éloge de la folie. Il y a d'abord une fonction de célébration, qui était déjà présente dans Feuille d'herbe, donc je vais être relativement rapide là-dessus pour ne pas ennuyer ceux qui avaient entendu ça. Et il y a une autre fonction, qui n'est pas dans Feuille d'herbe, et qui là se juxtapose à la première, qui est une fonction de démonstration. Parce que ce n'est pas un poème d'éloge, c'est un discours d'éloge. Contrairement à Feuille d'herbe. Il y a du discours dans Feuille d'herbe, mais c'est du discours à l'intérieur du poème. Là, c'est un discours d'éloge, et donc ça sert à la fois à célébrer et à démontrer que l'objet est digne d'être célébré. L'éloge de la folie, ça repose en fait sur une série d'arguments. C'est construit par arguments. Donc, la célébration d'abord. Ah là là, la célébration, mais c'est la base du texte littéraire. Même, on dit souvent, oui, la naissance du texte littéraire, c'est la guerre, c'est l'Iliade, tout ça, tout ça. Moi, je ne suis pas d'accord. La naissance du texte littéraire, c'est la célébration. L'un des plus vieux machins qu'on n'ait jamais retrouvé dans notre tradition, je parle de la tradition européenne, disons. L'un des plus vieux machins, ça s'appelle les Odes de Pindare. Ça a été publié il y a plus de 2500 ans. On n'a que des petits bouts, parce que c'est des papiers qui ont été mangés par les souris, tellement c'est vieux. On reconstitue comme on peut ce qu'il y a là-dedans. Mais je vous lis un bout d'une Ode de Pindare que j'adore. Aïeron de Syracuse, vainqueur à la course des chars. Première ode olympique. Ça, c'est un des recueils de Pindare. C'est des odes olympiques. C'est à propos des sportifs. Donc, c'est comme on est en plein mondial, ça m'amusait de vous ramener ça. Auguste, fils de Tantale, je dois mieux que tout célébrer tes louanges. Bon, voilà, fonction de célébration, c'est clair pour tout le monde. J'ai voulu couronner dans mes champs éoliens ce héros que proclamèrent les lois de la course solennelle. Quel autre plus habile dans l'art de varier les tons et d'orner la poésie saura mieux allier la véhémence aux grâces du langage. Et là, vous voyez que Pindare, en fait, sous couvert d'éloge de l'autre, s'intéresse surtout à sa propre personne. Et ça, c'est dans l'étymologie du mot éloge lui-même. C'est eulogia. Ça veut dire belle parole. Eulogia. C'est une des étymologies possibles grecques de l'éloge. Eulogia, ça ne veut pas dire louange de quelqu'un. Ça veut dire belle parole pour louer quelqu'un. Donc, c'est de la pub pour le discours. C'est pas de la pub pour le bonhomme, d'abord. Pour le bonhomme dont il est question. Et Pindare, il s'en fait des couches et des couches. Il adore dire oui, ce type est génial et il n'y a que moi qui peux chanter son génie tellement je suis génial. C'est ça l'argument principal de Pindare. Et ça, ça occupe les littéraires depuis les origines. De trouver quelqu'un qui est bon à louer pour pouvoir en fait dire je suis vraiment génial de pouvoir louer ce type. Quoi. Mon langage est à la hauteur de sa grandeur. Fallait bien que les littéraires trouvent une spécialité à leur boulot, qui disent bah, moi je manie le langage d'une façon qui n'est pas habituelle. Je suis pas là pour le café du commerce, je suis pas là pour passer commande. Non, je suis là pour manier le haut langage. Donc notre ami Erasme, il s'inscrit directement là-dedans, et la folie, qui est donc celle qui parle, elle le dit tout de suite. Hein. C'est la deuxième page du bouquin. Jusqu'à présent, je pense qu'on sera d'accord dans toutes les éditions. Page 22 chez moi. « J'imiterais plutôt ces anciens. Leur grande affaire était de célébrer par des éloges les dieux et les héros. » En fait, c'est Pindare dont il parle. Là. C'est pas écrit, mais c'est Pindare. Il y en a d'autres, bien sûr. Mais Pindare, c'est l'élogieux des élogieux. Donc, faire un éloge, c'est quoi? C'est chanter la grandeur du dédicataire. C'est dire « Le type à qui je dédie mon éloge est grand. » Et c'est le dire d'une façon sublime, avec un langage qui est plus seulement du langage, mais qui est du domaine du chant. Et là-dessus, évidemment, Erasme reprend cette tradition en la détournant. Donc je vous disais, Pindare, ce qui l'intéresse, c'est de louer des gens, mais c'est surtout de louer sa belle parole. Donc l'objet de l'éloge est au moins aussi important que celui qui fait l'éloge. Et là, Erasme va encore plus loin que Pindare, puisque c'est le même personnage qui fait l'éloge et qui le reçoit. C'est la folie. La déesse Moria, dans le texte original. Je ne sais pas comment ça a été traduit chez les autres, mais chez moi, le traducteur qui est audacieux, Claude Barousse, il utilise un verbe très moderne, il dit « Qu'est-ce qui cadre mieux avec la folie que de trompeter elle-même ses propres louanges et de s'auto-célébrer ?» Il utilise ce verbe, le verbe « s'auto-célébrer », qui rappelle vraiment Feuilleterre. « I celebrate myself ». Je me célèbre moi. Alors, du coup, il faut que je m'arrête sur le stultitiae du titre latin. Folie, stultitia, est mis au génitif. Alors, rappelons-nous la chanson de Brel. Rosa, 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 rosé, rosé, rosa. Rosé, rosae, rosae, c'est le génitif. Voilà, il y en a qui se souviennent encore de la chanson en entier. Rosae, ou la stultitiae, bon, je ne vais pas vous faire la leçon de latin, c'est pas l'objet, mais c'est le génitif. C'est la forme génitif. Laos, stultitiae. L'éloge de la folie. Le génitif, c'est cette forme qui fait que la fonction de la folie est compréhensible. Mais il y a deux sortes de génitifs, en latin comme en français. Il y a un génitif sujet et un génitif objet. Le génitif sujet, ça voudrait dire éloge de la folie, éloge fait par la folie. C'est un de qui veut dire par. L'éloge par la folie. C'est la folie le sujet de l'éloge. C'est elle qui agit l'éloge. Et le génitif objet, ben, c'est l'éloge à propos de la folie. À propos de la folie. Et il se trouve que ces deux trucs-là existent aussi en français. C'est pas le cas dans toutes les langues. On a pu garder de cette richesse de la forme latine du génitif sujet et du génitif objet, l'héritage en français. Quand on entend éloge de la folie, on entend à la fois par et à propos de. Parce que c'est ça que fait Erasme. Il superpose ces deux génitifs. Les deux génitifs sont agis par le même personnage. Sauf que ça va pas de soi. Un éloge de la folie, ni comme génitif sujet, ni comme génitif objet. Et c'est pour ça que ce texte n'est pas juste un poème de célébration, mais que c'est une démonstration. Parce que la folie, c'est pas un objet d'éloge habituel. D'habitude, ce qu'on loue, c'est éventuellement les grands sportifs. Ce serait drôle d'ailleurs de faire, je sais pas moi, un éloge de Ronaldo. La grandeur de la folie, elle est pas seulement chantée, louée dans l'éloge de la folie, elle est défendue. Voilà, c'est ça l'idée. C'est qu'il faut la défendre. Et comment on fait pour défendre quelque chose? Et là, on donne des preuves dans le langage. Il faut donner des preuves. Et ça, ça commence tout de suite. C'est à peine embrayé, le truc. Le début est très bizarre. C'est un vrai début, et en même temps, il est très original. Page 21, chez moi, c'est écrit « La preuve magnifique et surabondante ». En voici d'ailleurs la preuve magnifique et surabondante. Ça doit être la deuxième phrase. Hein. « En dépit des ragots, blablabla, c'est moi qui ai le don divin de rendre hilar et les dieux et les hommes. En voici d'ailleurs la preuve magnifique et surabondante ». Ça commence tout de suite, ça attaque directement par de la preuve. Début du deuxième paragraphe, c'est du reste une vérité d'expérience, deux points, blablabla. Et là, il y a un nouvel argument qui jaillit, qui s'appuie sur l'expérience. Ce qui est censé faire preuve, là, c'est l'expérience. Et on va voir qu'il y a plein de types de preuves qui s'accumulent. L'éloge de la folie, c'est un ensemble de preuves. 68 chapitres, il y a plus ou moins 68 preuves de la grandeur et de la nécessité de la folie. Au passage, le chapitrage, il ne vient pas d'Erasme. Erasme n'a jamais mis des numéros, en fait. Mais ça a été fait par les éditeurs ultérieurs. Donc il faut défendre la grandeur de la folie parce que ça va pas de soi. D'habitude, ce qu'on loue, c'est pas la folie. Ce type d'éloge, c'est une tradition. L'éloge à la Erasme. C'est ce qu'on appelle l'éloge paradoxal. C'est une des traditions de l'éloge. Et c'est là-dessus que Lucien de Samosate, dont je vous parlais tout à l'heure et dont on a déjà parlé la dernière fois, est une espèce de maître. Il a écrit des éloges débiles, des éloges vraiment drôles, des blagues, un éloge de la mouche, un éloge de la calvitie. C'est délicieux, petit texte piquant. Et Erasme y connaît très bien, Lucien. Il le connaît tellement bien qu'il l'a traduit. Il l'a traduit du grec, et il l'a traduit avec qui, je vous le donne en mille, avec son copain Thomas More, qui est le dédicataire de l'éloge de la folie. C'est les deux grands érudits européens, Thomas More et du début du XVIe. Thomas More et Erasme. Ils étaient très copains, ils avaient des amusements d'érudits. Ils traduisaient des auteurs latins, cochons, rigolos. Et puis ça permettait à Erasme de faire une blague de plus, parce que le nom grec de la folie, c'est Moria, et que son copain s'appelle Thomas More. Pour ça, il dit, je te dédie ce texte parce que t'es un peu fou, en fait. C'est écrit dans ton nom que t'es fou. Alors, j'en étais où avec mon Thomas More ? À Lucien. Lucien, l'un des maîtres de l'éloge paradoxal, puisque ça fait bizarre de faire un éloge de la mouche. C'est en effet un paradoxe. Donc, il s'était amusé à traduire Lucien en 1505, 6 ans avant la parution de l'éloge de la folie, et 4 ans avant son écriture, en fait, puisque l'éloge a été écrit en 1509. Alors, comment il fait pour prouver la grandeur de la folie ? Eh bien, il fait un discours. Il ne fait pas un poème. Et on va voir que du discours, il reprend les arguments, mais il ne reprend pas seulement les arguments. Il reprend plein de choses qui sont déterminantes pour comprendre comment est fait l'éloge de la folie. D'abord, du discours démonstratif, il retient le schéma communicationnel de l'adresse. Ce monologue représente, dans le panorama qu'on commence à constituer ensemble, une nouvelle forme d'oralité. Un discours s'est adressé par un orateur à un public, même si c'est une mise en scène, même si c'est une fiction. Il n'a jamais proféré son discours Erasme, puisque de toute façon, ce n'est pas lui qui le prononce, c'est la folie. Donc c'est un discours fiction. C'est un personnage qui s'appelle la folie qui est censé faire un discours à des gens. Et ça, ça commence tout de suite. L'auditoire, c'est le décor initial. L'un des premiers mots, en dépit des ragots, blablabla, blablabla. En voici d'ailleurs la preuve magnifique, blablabla, devant votre innombrable assemblée. Voilà, ça y est, le décor est planté au bout de 7 lignes, 8 lignes. Et il ne changera pas ce décor. Le décor de tout le discours, c'est le public. Et le dernier mot du texte désigne ce même public. Donc il y a vraiment un effet d'encadrement. Le dernier mot de l'éloge, c'est « illustrissime sectateur de Moria la folie », au pluriel. Donc c'est adressé au public. Sur ce, santé à tous, applaudissez, à vous la vie, à vous le vin, illustrissime sectateur de Moria la folie. Donc au bout de quelques lignes, on parle du public et on parle de lui en dernier. C'est un discours de bout en bout. Alors cet auditoire et cet orateur, ils ont des modèles bizarres. Erasme en reprend plusieurs en même temps. Du fait qu'il est en train de défendre son bout de gras, Erasme, qu'il faut qu'il explique aux gens que la folie, c'est bien. Ça relève de la plaidoirie, le cadre de discours. Ça ressemble à un plaidoyer au tribunal. Il y a un effet de tribunal. Et le tribunal, c'est plutôt du sérieux, quoi. Et on s'en sépare jamais de ce truc de la plaidoirie. Mais en même temps, ce modèle-là, il est moqué parce que Erasme lui associe un autre modèle qui est celui du battleur de foire. C'est à la fois un avocat et un bravache qui parle. Il dit « Oui !» C'est la folie qui dit ça. « S'il vous plaît, ne me prêtez pas l'oreille comme à un prédicateur sacré, mais plutôt comme à un battleur. » Bon, en fait, on verra que ça termine sur de la prédication, l'éloge de la folie. On verra que finalement, c'est un texte sur le sacré. Mais ça, c'est pour la fin. Et du coup, comme c'est une adresse, comme c'est oral, eh ben, Erasme en profite, puis comme ça se passe à la foire, Erasme en profite pour glisser des trucs familiers. C'est pas seulement oral au sens où c'est une voix qu'on entend, c'est aussi oral au sens du registre oral, qu'on différencie du registre écrit. Par exemple, dans le chapitre 25, donc moi c'est page 54, il y a un portrait du sage qui est assez rigolo, qui est fait d'images qui sont hardies. Tout l'argument de la folie, ça consiste à dire « moi je suis bien » et les sages, c'est vraiment pas grand-chose. Et donc voilà ce qu'il fait. Invitez un sage à un repas convivial. Il le gâchera par son silence rabat-joie ou de petites questions gênantes. Si vous le priez de venir à un bal, vous aurez l'impression de voir un chameau se trémousser. Traînez-le au spectacle, sa tête à elle seule empêchera les gens de prendre leur plaisir, et votre sage caton sera bouté hors du théâtre pour avoir été incapable de se dériver. Dès qu'il surgit dans une conversation, c'est comme le loup de la fable. À l'occasion d'un achat, d'un contrat, bref, là de ces actes indispensables au déroulement de la vie quotidienne, votre sage a plutôt la contenance d'une bûche que d'un homme. La contenance d'une bûche. Le chameau qui se trémousse, c'est des images hardies. Et ça aussi, ça relève de l'oralité du texte. Autre appartenance au discours, enfin, autre caractéristique liée à l'appartenance au discours, c'est l'organisation du texte en grandes sections logiques. Ça ressemble à une grande disserte, en fait. Même si y a plein d'effets, de naturel, de... C'est organisé avec une intro, un long développement et un épilogue. L'intro, elle est bizarre, mais très claire, hein. Elle commence comme ça, un peu sur les chapeaux de roue, mais il dit quand même tout son projet. Il dit, voilà, je vais m'auto-célébrer. Donc c'est très clair ce qui va se passer. Et puis, le dernier paragraphe, le dernier chapitre, en fait... Voilà ce que nous dit la folie. Je le vois, vous attendez un épilogue. Vous êtes fou, vraiment, si vous pensez que je me souviens encore de ce que j'ai dit après cette longue coulée de fatrasie logoréique. Donc il nous dit, je ne ferai pas d'épilogue, ce qui est une manière coquette de faire un épilogue, évidemment. Et en faisant figurer le mot grec, en plus, épilogos, qui n'est pas encore très acquis, hein, et même chez les lettrés de l'époque. En plus, la conclusion, elle était annoncée dès la page 145, où il dit, oui, voilà, dans tout discours, à un moment, il faut penser à conclure... Donc il sait très bien où il va, bien sûr. Voilà. Bien que mes louanges n'admettent ni mesure ni point final, il y a un moment où un discours doit s'achever. Là, on est page 145. Donc vous voyez, entre la page 145 et 172, il prend son temps pour faire sa conclusion. Bon, voilà donc deux grands types d'appartenance au discours. Le cadre de l'adresse, avec ses effets d'oralité. La construction, en fait, canonique. Intro, développement, conclusion. Et puis surtout, donc, ses arguments incessants. Donc dès le début, je vous l'ai mentionné. Là, il est question de cette vérité d'expérience. C'est une vérité d'expérience que, blablabla. Et puis ensuite, il va mélanger un ensemble d'arguments savants et populaires, selon le même balancement que ce qu'on a vu entre la plaidoirie et la fête foraine, en fait. Et c'est une des grandes originalités de ce texte, un peu comme dans Rabelais, que d'articuler le carnaval et le sérieux, de mélanger le haut et le bas. C'est une des possibilités qui sont encore offertes à la Renaissance. Racine, il ne pourra jamais faire ça, par exemple. C'est ce que redécouvrira Hugo, par exemple, chez Shakespeare, en disant ce qui est génial chez Shakespeare, à la même époque que Racine, peu s'en fout, c'est que lui, il peut mélanger les registres Shakespeare, alors que pour Racine, c'était interdit, il fallait faire que du sublime, ou alors c'est Molière. Mais Molière, c'est pas Racine. On mélange pas les torchons et les serviettes. Lui, il peut mélanger les torchons et les serviettes. Alors c'est quoi? Eh ben, c'est truffé de proverbes et d'adages, par exemple. Il y a des proverbes tout le temps. Et ça, comment ça fonctionne comme preuve? Ça fonctionne comme preuve parce que ben, ce que je dis est vrai, puisque c'est enregistré par des formules immémoriales. C'est un appui sur le passé. Je dis vrai, puisque on dit ce que je dis depuis toujours. L'appui sur les proverbes, c'est vieux, vieux, vieux. Bon, et en plus, Erasme, il est très fort en proverbes. Il en a sous le capot quand il utilise ce type de preuve, parce qu'il a publié en 1500, c'est le premier machin qu'il publie, il a publié un recueil d'adages. D'adages célèbres dans les textes antiques, grecs et latins. Et en fait, pour écrire l'éloge de la folie, il a rouvert son dossier adages, et il les a piochés ici et là, il les truffe. C'est une espèce de grosse truffade de proverbes, l'éloge. D'ailleurs, il se met en scène là-dessus, page 144 chez moi. Mais cessons de parler par proverbes, sinon j'aurais l'air de piller les commentaires de ce très cher Erasme. Donc là, il y a un petit effet de signature coquette. Il en est question de deux fois d'Erasme. Il dit, la folie, elle dit toujours, j'adore Erasme, c'est vraiment quelqu'un de très bien. Bon, ça c'est un des premiers types de preuves, donc le proverbe, un appui sur la tradition, quoi, sur le discours éternel. Un autre type de preuve, c'est le raisonnement par l'absurde. Alors ça, moi, je le trouve page 67, c'est-à-dire au début du chapitre 32. Alors comment est-ce que c'est fait, son raisonnement par l'absurde? La folie veut prouver qu'elle est naturelle, en fait, qu'elle est consubstantielle à l'humanité. Comment elle s'y prend? Elle dit, il y a des gens qui disent que être fou, ça rend malheureux. Mais ça ne peut pas rendre malheureux puisque c'est naturel. Ou alors ça rend malheureux que les gens antinaturels. Mais c'est vraiment débile d'être antinaturel. Et là, il y a l'argument qui tue. Est-ce qu'un cheval se plaint de ne pas manger du gâteau? Est-ce qu'un taureau se plaint de ne pas faire de la gymnastique? C'est des jolies images. Ça, c'est vraiment l'humour antique. C'est des blagues de grec et de latin qui formulaient des trucs comme ça. Et c'est passé grâce à des espèces de vieux fous comme Erasme dans notre culture à nous. Donc, comment ça fonctionne? Ça consiste à pousser l'argument de l'adversaire à un terme qui montre que cet argument est débile. L'argument de l'adversaire de la folie, c'est de dire « la folie rend malheureux parce qu'elle n'est pas naturelle ». Et la folie dit « mais non, la folie est naturelle ». Et c'est eux qui disent que je suis pas naturel qui sont à plaindre. Parce que quand un truc est naturel, il faut l'admettre. Et là vient l'argument par l'absurde. Dans sa nature de cheval, il n'y a pas la possibilité de manger du gâteau. Bon, voilà, les chevaux ne mangent pas de gâteau. Les taureaux ne font pas de gymnastique. Mais ils ne s'en plaignent pas, puisque ce n'est pas dans leur nature. Donc, en fait, c'est ceux qui se plaignent de la nature qui ne devraient pas le faire et qui ont tort. Donc, moi, la folie, qui suis naturel, j'ai raison d'être. Ça fonctionne comme ça, le raisonnement par l'absurde. Et du coup... 1. Logiquement, c'est convaincant. Mais deux, en plus, c'est drôle. L'image d'un cheval qui mange du gâteau, on voit vraiment ça, vous voyez, dans les toiles contemporaines, chez Bruegel, chez les peintres de cette époque, quoi. Un troisième type d'argument, j'en resterai là, parce qu'il y en a plein des types, mais ça, c'est trois qui me semblent exemplaires, c'est les longues listes. Erasme adore faire des listes. Bon, les adages, c'était déjà un peu ça, hein, la collection de la même chose plein de fois. Mais c'est aussi une manière de légitimer son discours que de faire des listes. De le légitimer non plus par la tradition, non plus par l'absurdité de l'argument adverse, mais simplement par la quantité. Regardez page 138, ça c'est un chapitre qui est important dans le texte, c'est le chapitre 59, c'est le chapitre où la folie se moque des souverains pontifs. Il s'agit de dire, en gros, ça on va y revenir, que c'est vraiment un des arguments qu'utiliseront les protestants ensuite, l'Église catholique repose sur un faste délirant, coûteux, qui n'a rien à voir avec le fondement de la religion. Et voilà comment s'y prend la folie. Elle dit, bon voilà, si jamais le catholicisme tombait, ce serait absolument affreux, parce qu'il y aurait plein de gens qui seraient au chômage, en gros. C'est ça son argument. C'est un argument, donc, par l'absurde. Et on y va, quoi. Il se produira alors quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Tous ces attachés de rédaction, tous ces copistes, tous ces notaires, ces avocats, ces procureurs, ces secrétaires, tous ces muletiers, ces palefreniers, ces banquiers, ces entremetteurs, j'allais risquer un mot plus mignon, mais je crains de heurter les oreilles. Bref, cette immense foule si dispendieuse, je voulais dire indispensable pour le siège de Rome, serait réduite à mourir de faim. Là, qu'est-ce qu'il fait ? Le texte mime par sa propre enflure la réalité qu'il veut dénoncer. Donc la liste, ça ne sert pas juste à accumuler des choses, ça sert à dire... La réalité est beaucoup trop pleine de choses. Il y a des choses à enlever dans la réalité. Il faut alléger le fonctionnement de l'Église, en l'occurrence. Bon, et il y a une dernière chose qui relève du discours, qui est importante dans l'éloge, c'est le système permanent de la relance. Si vous allez voir une plaidoirie, puisque c'est l'une des seules formes aujourd'hui de discours à laquelle on a accès, ou alors Fidel Castro, mais Fidel Castro, ça se fait, bref, il n'est plus en état de faire des relances ni quoi que ce soit aujourd'hui. L'un des impératifs de l'orateur, c'est de tout le temps... recaptiver l'auditoire. Même s'il est passionnant sur le fond, même s'il est intelligent, etc., il faut tout le temps aller rattraper les gens, tout le temps aller les ressaisir. Et la folie n'arrête pas de faire ça. Du coup, la liste des arguments, elle n'est pas statique, elle est fluide, grâce à ces systèmes de relance. Et ça passe souvent par le fait de dire que l'avancée du discours, c'est vraiment une action physique. Et la preuve la plus manifeste de ça, c'est la répétition de la formule « allons-y ». Alors allons-y. Je vais vous prouver ça maintenant. Alors allons-y. Et puis allons-y. Ça figure au moins trois fois dans le texte. Je vous lis les trois occurrences. Entre le chapitre 30 et le chapitre 31. « Mais voilà un bon moment que j'en ai assez de ce sage à la noix. Ah donc, qu'à de riants sujets revienne mon discours. » Et là, on change de chapitre. « Allons-y. Imaginons un poste d'observation surélevé d'où l'on puisse tout observer à la ronde, comme fait Jupiter au dire des poètes, etc. etc. » Donc, je continue à vous donner mes exemples d'allons-y, les effets de relance, là. Blablabla, page 72. Réciproquement, les moins malheureux sont, à mon avis, ceux qui se tiennent les plus proches de la nature animale de la folie. Allons-y ! Essayons de démontrer cet autre point, mais pas question d'antithème stoïcien, prenons un exemple grossier. Deuxième occurrence. Et la troisième, page 97, c'est le début du chapitre 48. Et si quelqu'un s'imagine qu'il y a dans mes propos plus de forfanterie que de vérité, alors allons-y, examinons un peu la vie réelle des hommes pour montrer au grand jour à la fois l'étendue de leur dette envers moi et la grande estime en laquelle ils me tiennent, tant les puissants que les misérables. Donc ce qui m'intéresse avec cet allons-y, c'est qu'il nous fait vraiment sentir l'avancée du discours comme si c'était un geste sportif, comme si c'était une course en train de se faire. Et ce dynamisme-là de la parole, c'est une des modernités du texte. C'est encore présent, et c'est encore un des trucs que j'aime beaucoup, dans le texte de Cadio. Hein, souvenez-vous, cette Fairy Queen, c'est une performeuse. Et elle n'arrête pas d'avoir un discours performance, un discours d'action. Elle vient faire une performance chez Gertrude Stein. Là, en fait, cet allons-y nous rappelle qu'un discours est une performance, une action en train de se faire. Allons-y, allons-y. Il y a un autre aspect qui va dans le même sens, qui consiste à dire que le discours est un souffle. Ça, c'est chapitre 7. C'est un moment où la folie s'emballe. Son bon plaisir régit guerre et paix, empire, conseil, tribunaux et assemblées, mariage, traité, alliance, loi, art et loisirs, travail, j'en perds le souffle, bref, l'ensemble des affaires humaines, tant publiques que privées. J'en perds le souffle, ça veut bien dire qu'on est en train d'assister à une action physique. Même si ce souffle risque d'être perdu par une folie qui aime s'emballer, ben c'est bien qu'il y a un souffle qui porte l'avancée du discours. Et on verra que ça annonce aussi une autre acception du souffle, qui est une acception sacrée, là, pour le souffle divin. Bon, voilà donc tout ce qui fait que l'éloge est pas seulement une célébration, mais bien une démonstration. Une démonstration, un discours de démonstration. Mais en fait, cette démonstration, il faut bien le dire quand même à un moment, elle est entièrement ironique. Dire que la folie est grande, que la folie est louable, c'est en soi un immense argument d'ironie. Effectivement, c'est ça qu'elle dit toujours et avant tout, la folie. Je suis grande parce que je régis le monde entier. Tous les hommes sont soumis à mes pouvoirs. Tout le monde est dingue, c'est-à-dire prétentieux, orgueilleux, inconséquent, et au minimum soumis aux passions, à la force des passions, qui s'opposent donc à la raison. C'est la première signification du mot folie sous la plume des racines. C'est le fait d'être soumis aux passions. Mais du coup, faire l'éloge de la folie parce qu'elle dirige le monde, c'est une façon indirecte de faire la satire du monde qu'elle dirige. C'est ça, en fait, le rôle profond de l'éloge de la folie. C'est pas de faire l'éloge de la folie, c'est de faire la satire du monde soumis à la folie. Pour le dire autrement, les louanges apparentes d'une déesse par elle-même, c'est en vérité une critique des hommes qui vivent loin de Dieu, formulée non pas par une déesse mais par l'un d'entre eux, qui s'appelle Erasme de Rotterdam. Alors il nous met sur la piste, Erasme, bien sûr, pour les esprits les plus lourds qui n'auraient pas compris le truc ironique, et c'est toujours difficile parce qu'il n'y a aucune trace d'ironie. L'ironie n'est pas perceptible par aucune preuve objective dans un texte. Il y a un type qui, au XVIIIe siècle, voulait créer un point d'ironie pour signaler les endroits où les passages étaient ironiques. Mais comme il y a des points d'exclamation, ça enlèverait tout le sel du texte ironique. Donc qu'est-ce qu'il nous dit, page 143, Erasme, sous couvert de faire parler la folie ? Je ne veux pas avoir l'air d'ourdir une satire au lieu de réciter un éloge. Il joue exactement sur les deux termes dont je vous parle. Je ne veux pas avoir l'air d'ourdir une satire au lieu de réciter un éloge. Mais évidemment, c'est ça qu'il fait. C'est aussi un argument ironique, ça. C'est ce qu'on appelle en rhétorique la prétérition, ça. Je ne veux pas faire blablabla, puis en fait, on le fait. Je ne vous parlerai pas de truc muche qui clac, 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 puis en fait, on parle de lui. Alors, cette satire du monde, elle peut avoir différents tons. Ça évolue au cours du bouquin. C'est un bouquin très évolutif, très difficile à saisir. Il ne fait pas qu'une chose, quoi, l'éloge de la folie. C'est tout le temps mouvant. C'est la Renaissance. Et c'est presque déjà baroque. Ça peut être tendre, la satire. Elle peut être amusée. Dans le chapitre 11, par exemple, qui me touche particulièrement, qui consiste à parler de l'état d'égarement qui est nécessaire à la conception des enfants. Donc, c'est-à-dire sur la nécessité de la folie pour quelque chose de fondamental que la perpétuation de l'espèce. Donc, c'est un chapitre délicieux. C'est le chapitre 11. Chez moi, c'est page 30. Que peut-il y avoir de plus doux, de plus précieux que la vie ? Et il est question de Jupiter, en fait, qui doit tout le temps se déguiser pour faire des enfants. Bref, c'est moi, oui, c'est moi dont il doit solliciter l'intervention si vraiment il veut être papa. Là, il y a un effet traducteur, bien sûr. Je ne sais même pas s'il y a un mot qui distingue père et papa en latin. Bon, et ça peut devenir par contre très très agressif, la satire. Par exemple, quand il est question des théologiens que Erasme adore dégommer, des moines, ou des grands de la cour, page 134-135, c'est vraiment délicieux. Écoutez bien le début, on dirait du cadio. Donc il est question d'un roi qui se réveille ou d'un prince. Page 134, c'est la fin du chapitre 56. Donc il parle d'un grand de ce monde qui se réveille. Ça dort jusqu'à midi. Et là, c'est vraiment génial. Là, un petit mercenaire ensoutané, debout près du lit, est tout équipé pour leur expédier une messe éclair alors qu'ils sont encore couchés ou presque. J'adore cette phrase. C'est tellement rapide et vif. On enchaîne avec le petit déjeuner. Sitôt terminé, voilà le déjeuner qui les réclame. Après ça, les dés, les échecs, le loto, les bouffons, les catins, les jeux, les grosses plaisanteries. Dans les intervalles, une ou deux collations. On dirait Gertrude Stein qui parle. Quoi. Et puis à table, de nouveau pour le souper. Après quoi, on se rince la dalle et on remet ça par Jupiter. Ainsi, pas de mélancolie existentielle, tandis que s'écoulent les heures, les jours, les mois, les années, les siècles. Moi-même, parfois, quand je sors de la cour, j'en ai plus que mon compte de ces gens infatués de leur grandeur. Ça, c'est donc écrit en grec. De ces nymphes persuadées que plus leur traîne est longue, plus elles sont proches des dieux, et de ces grands qui jouent des coudes pour être vus tout près de Jupiter, de tous ces gens dont l'autosatisfaction est en raison directe du poids de la chaîne pendue à leur cou, car cela fait ressortir leur force, et pas seulement leur richesse. C'est torché, très contemporain, et c'est très méchant. Voilà, donc là, évidemment, à ce moment-là, quand il dit « Bon, c'est génial, vous avez vu, la folie est vraiment grande, puisqu'elle dirige la vie même des grands de ce monde, ils sont tous cinglés, ils ont une vie délirante. » Là, c'est un argument ironique. La folie a cette fonction sur les trois quarts du texte, mais il reste pourtant une forme de folie dont l'éloge est à prendre au premier degré. Il y a, comme dit Claude Barousse, notre traducteur, un saut qualitatif qui s'opère autour du chapitre 62. La folie change de sens, elle change de forme. C'est plus la fantaisie, la soumission aux passions, l'orgueil, l'autosatisfaction, toutes ces formes de folie qui ont occupé Erasme jusqu'alors, c'est l'enthousiasme mystique du vrai croyant. Et Erasme rappelle cette expression très puissante qu'on utilise notamment pour désigner les mystiques. Il est, pour désigner les mystiques, il est hors de lui. Il est hors de lui. Pour moi, c'est la définition de base du mysticisme, ça. C'est le fait de sortir de soi. Sortir de ses gonds qui est rappelé à peu près au même endroit. Sortir de ses gonds, voilà, sortir de soi. Le problème, c'est qu'il y a le mot fureur. Et c'est là-dessus, moi, que j'ai bossé, en fait, quand je travaillais sur la Renaissance. C'était sur la question de la fureur, qui est vraiment un point d'articulation entre colère, amour et folie. Et puis, il y a une fureur religieuse, en fait, à la Renaissance. Ils pensent aussi la fureur en termes religieux, pour parler des mystiques. Donc, entre sortir de ses gonds et être hors de soi, en effet, l'émotion, aujourd'hui, n'est pas la même, mais je dirais le moteur, c'est cette capacité particulière à l'espèce humaine à sortir de soi. Péter les plombs. Alors, comment s'articulent ces deux folies? Pourquoi est-ce qu'Erasme choisit d'associer, dans le même texte, et apparemment dans la bouche du même personnage, deux types de folies très différentes? En fait, je crois qu'on peut dire qu'il y a une relation hiérarchique entre les deux. Il y en a une qui sert les intérêts de l'autre. Alors, pour dire ça plus clairement, la folie ironique est un outil de décapage pour permettre de revenir, et j'insiste sur le mot retour, à la folie mystique. Le mouvement de sortie de soi mystique, qui est le cœur de la vie bonne au sens d'Erasme, a été étouffé par une succession d'excès, on va voir lesquels, au fil du temps, depuis le message christique. Et la folie ironique est un outil de décapage pour dénoncer les passions et revenir à ce noyau, à ce corps, qui est le cœur de la vie bonne. C'est ce en quoi l'éloge de la folie, c'est donc une proposition de réforme qui annonce ce vaste mouvement qui va embraser toute l'Europe. Une réforme, c'est-à-dire un retour. Je vais pas mal insister là-dessus. Une réforme, donc au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est une amélioration. Et en effet, c'est une des ambitions d'Erasme avec l'éloge de la folie. C'est d'améliorer ses lecteurs. C'est de leur dire, revenez à une vie bonne. Mettez de côté vos folies. Mais il faut aussi entendre, j'y reviens, le sens étymologique de reforme, c'est-à-dire le retour d'une forme ancienne. Le modèle de la vie du Christ. Voilà ce qu'on lit, page 137, au début du chapitre 59, à propos des papes. La folie dit « J'en viens au souverain pontife », c'est-à-dire « Je vais m'attaquer à eux maintenant ». Si ces vicaires du Christ s'efforçaient d'imiter sa vie, autrement dit sa pauvreté, ses travaux, son enseignement, sa croix, son détachement du monde, blablabla, bon, et en fait, il dit, est-ce que ce ne seraient pas les plus malheureux sur Terre? Parce qu'ils comprendraient qu'ils sont complètement à côté de la plaque avec leur mode de vie actuel. N'empêche que sous cet argument ironique est récapitulé l'essentiel du message évangélique d'Erasme. Les modèles d'Erasme, à tous les niveaux, ils sont dans le passé. On va voir que Erasme n'appartient pas encore à une époque où on peut penser un idéal dans le futur. Si on veut se réclamer d'un idéal, il faut forcément le retrouver dans le passé. Et ça, c'est vrai. Depuis le départ, hein, je vous ai dit, Erasme, au niveau rhétorique, au niveau de la construction du texte, il s'inspire d'une forme antique, de l'éloge. Il va chercher son modèle littéraire dans le passé. Il dit « j'imiterai les anciens ». Il ne disait pas Pindare, mais il dit « j'imiterai les anciens ». Mais c'est encore plus vrai, ce recours à des modèles passés, pour ce qui est de la religion. Et là, c'est l'imitation du Christ dont il est question. Et là, Erasme initie donc ce grand mouvement culturel, politique de réforme qui remet en question la légitimité du catholicisme romain dans toute l'Europe au XVIe siècle. Ce mouvement de réforme, il faut d'abord le comprendre dans Erasme, comme à l'échelle de l'Europe, comme un retour. Le retour, la volonté de retour à une origine pure. Donc Erasme n'est pas le seul à défendre tout ça, et cette volonté de pureté, elle est défendue de différentes façons selon les acteurs, selon les personnages historiques. L'autre grande figure qu'on ne peut pas ne pas évoquer à propos d'Erasme, c'est Luther. Qui est un peu plus jeune qu'Erasme, mais qui travaille dans les mêmes années. Et Luther, lui, il va conduire au protestantisme, c'est-à-dire au schisme. Alors que Erasme restera toujours dans le cadre de l'Église catholique, même en prenant des distances, et développera un mouvement qu'on appelle plutôt l'évangélisme, et qui sera défendu notamment par la sœur de François Ier. La sœur de François Ier, elle abritera, pendant toute sa vie, des défenseurs de l'évangélisme, c'est-à-dire de cette volonté d'un retour à la vie du Christ, à la simplicité de la vie du Christ. Luther va plus loin, puisque Luther, c'est un guerrier. Le 31 octobre 1517, c'est un tournant dans l'histoire de l'Europe, il y a un avant et un après. Il publie 95 thèses, officiellement, placardées sur les murs, qui critiquent la papauté. Et cette critique, au bout de plusieurs années, le conduira à l'excommunication. Il sort. du cadre catholique. Je pourrais m'attarder là-dessus, mais je vais pas le faire. Les points communs entre des revendications très fortes chez les protestants et des arguments qui sont défendus par Erasme dans les loges. Il y en a au moins deux, très importants. C'est d'abord la question des images, la question des icônes. L'une des manifestations les plus violentes du protestantisme, outre le fait de tuer des gens, c'est ce qu'on a appelé l'iconoclasme, le fait de détruire les statues, les tableaux dans les églises. Les protestants vont beaucoup se manifester par ce mouvement d'iconoclasme. Mais c'est déjà présent, même si Erasme n'en appelle pas à la destruction des idoles, c'est déjà présent par deux fois, vous pourrez aller voir, dans le texte de l'Éloge. Page 97 et page 115, Erasme se moque des gens qui sont amoureux des images religieuses. Bon, je passe très vite. L'autre grande question qui fait sentir qu'à cette époque-là, il y a encore une proximité très forte entre les évangélistes et ceux qui seront les protestants, c'est la question des indulgences. Les indulgences, c'était cette espèce de système de rachat de ces péchés, de rachat littéral. C'est-à-dire, on donnait de l'argent. Une bonne œuvre pour acheter une statue, justement, ou pour ci ou pour ça. Et ces indulgences s'appellent comme ça parce qu'elles attiraient, du coup, l'indulgence de Dieu ou de ses suivants sur votre cas, pour le jour du jugement. Et c'est précisément à propos d'une indulgence que Luther va publier ses placards, va publier ses 95 thèses, à propos de l'indulgence qui avait été réclamée par son souverain à lui pour une construction sublime à Rome. Et il dit, mais arrêtez, arrêtez de vouloir construire des grands machins, de vouloir construire des grandes idoles. Voilà ce que c'est que des vraies thèses religieuses. Et il en sort 95. Et il dit, ce qui est important, c'est la vie du Christ, de revenir à cette espèce de modèle des évangiles. Bon, je passe là-dessus parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est plutôt à quoi s'attaque Erasme dans l'éloge pour en revenir à cette forme pure. Et comment il s'y prend avec le langage pour conduire cette espèce de lutte. Je reprends mon étymologie là. Reforme, c'est une volonté d'élimination de tout ce qui a recouvert la forme initiale. C'est une volonté de faire éclater des couches superflues. Dans l'éloge de la folie, on s'en rend pas compte forcément à la première lecture, mais c'est pour ça que je suis là. Il y a au moins trois enrobages, trois enflures qui sont très différentes, mais qui ont le même effet de pourrissement du fondement chrétien. C'est quoi ces trois enrobages, ces trois enflures? C'est le commentaire autour du texte sacré, et c'est là qu'Erasme est le plus drôle et le plus méchant, quand il se moque de ses condisciples, en fait, les théologiens, et particulièrement les théologiens scolastiques. L'autre enrobage, c'est la superstition, c'est ce que je disais là au sujet du culte et des objets. C'est le fait de prendre les représentations du sacré pour le sacré lui-même. Et la troisième enflure à laquelle Erasme s'en prend, c'est la pompe, ce qu'on appelle la pompe. C'est-à-dire cet ensemble de cérémonies luxueuses qui entourent et qui magnifient chaque acte de l'exercice sacré. Donc ça, c'est réparti dans des chapitres différents, ça. Mais on sent dans cette critique de l'enflure, qui a le même projet chez Erasme, qu'on pourrait résumer comme un projet d'amaigrissement, en fait. Il veut faire une cure à la curie. Au moment où il écrit l'éloge, il rentre de Rome, à cheval. C'est pour ça qu'il a du temps, et qu'il pense à son copain Thomas More, qui dit « Tiens, More, Moria, tiens, si j'écrivais un éloge de la folie, parce qu'ils sont vraiment tous cinglés, ceux que je viens de voir à Rome. » On lui a proposé de devenir cardinal, en fait. Il refusera toujours, il ne voudra pas justement de cette pompe. Et il s'est rendu compte que l'Église était obèse. Il a vu le cœur de l'Église et il l'a vu obèse. Donc c'est ça l'éloge de la folie. C'est la proposition d'une cure contre la curie. Contre la curie et sa pompe, mais aussi contre le commentaire scolastique et contre la superstition. Et à chaque fois, vous repérez, quand vous faites un petit peu attention aux différents passages où c'est distribué, qu'Erasme utilise la même arme verbale, la même arme linguistique pour s'en prendre à ces trois enflures, qui sont pourtant très différentes. Qu'est-ce qu'il fait à chaque fois? Il fait des listes. Les listes dont je vous parlais tout à l'heure. Il fait des listes pour s'amuser du délire auquel il assiste, mais aussi pour le dénoncer. Pour dire, regardez comme c'est enflé. Regardez comme je suis obligé d'enfler ma langue pour vous parler de cette réalité délirante. Regardons ce qui se passe pour la superstition, par exemple, page 123. Je prendrai l'exemple que pour la superstition. Donc ça, c'est à propos des moines. La majorité d'entre eux mettent tant confiance dans leur cérémonie, dans leur petite tradition purement humaine, qu'à leurs yeux, le ciel comme unique récompense, ce n'est pas grand-chose pour tant de mérite. Ils ne se doutent pas que le Christ, sans égard pour tout cela, va leur demander des comptes à propos de son grand commandement, celui de la charité. Ça, c'est le maître mot d'Erasme, en fait, la charité. Et là, ça commence. L'un étalera sa bedaine gonflée de poissons de toutes sortes. Là, on est chez Jérôme Bosch. Un autre videra 100 boisseaux de psaumes. Et écoutez, comme il s'y est bien pris, le traducteur. Un autre videra 100 boisseaux de psaumes. Un autre énuméra ses dizaines de milliers de jeûnes, tout en expliquant que si sa panse est prête à éclater, c'est dû à l'habitude du repas uni. Un autre mettra en avant un tel amoncellement de cérémonies que 7 bateaux de commerce auraient du mal à le transporter. Un autre se glorifiera de n'avoir jamais touché à l'argent, si ce n'est protégé par une double paire de gants. Un autre présentera son capuchon, si dégoûtant, si crasseux, qu'aucun matelot ne voudra le mettre. Un autre rappellera les 11 lustres et plus, durant lesquels il a mené une vie d'éponge, toujours rivée au même endroit. Un autre fera valoir qu'il s'est cassé la voix à force de chanter. Un autre, que la solitude l'a rendu léthargique, ou que le silence perpétuel lui a paralysé la langue. Mais le Christ leur coupera la parole, sans quoi ses apologies n'en finiraient pas, et il dira blablabla. Il y a 9 fois un autre. 9 fois. C'est 9 fois la même figure de style qui est répétée. Vous vous doutez bien qu'on a compris, en fait. Au bout du deuxième, on a compris. Donc pourquoi il continue? Pourquoi il fait une liste si ample? Parce que c'est la réalité qui est ample. C'est la réalité qui est trop grosse, qui est débordante. Et c'est là-dedans qu'il faut tailler. Autour de la question de la scolastique, c'est-à-dire de cette philosophie empreinte d'Aristote, de Platon, surtout d'Aristote, qui essaie de théoriser le texte sacré, il y a une question très importante qui se pose. La scolastique, c'est l'une des cibles préférées des humanistes. Érasme est très fort, mais celui qui va cartonner encore plus après, c'est Rabelais. Rabelais, avec les scolastiques, il est génial. Il a une manière de faire de la fausse scolastique, pour se moquer d'eux, qui est drôlissime. Il y a un passage scolastique sur la cuisson du bœuf, c'est ravissant. Mais qu'est-ce que ça pose comme question? Si la scolastique est plus convaincante, si elle est plus satisfaisante, il y a une vacance qui se crée dans l'ordre du discours. Pendant des siècles, la scolastique, c'est le discours jugé légitime pour parler de Dieu. Et là, d'un coup, il y a des types qui déboulent, des jeunes gars très cultivés, Erasme, Thomas More, putain, il y en aura. Qui disent, non mais faut arrêter avec la scolastique, faut arrêter avec le commentaire. Le commentaire de l'évangile qui est lui-même commenté, et puis il y a un commentaire du commentaire du commentaire du commentaire. C'est le modèle de l'enflure par excellence. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de discours légitime pour parler du sacré. Il y a une béance. Et une des grandes questions que pose l'éloge de la folie, c'est quel est le discours adéquat à la vie bonne? Quel est le discours qui va pouvoir nous indiquer la vie à vivre? Ce que dit Erasme, c'est que, en fait, il n'y a pas besoin d'inventer un discours. Il est déjà là. La forme est déjà là. Mais il faut la reformer. Il faut enlever l'enflure pour qu'on entende juste deux choses. C'est dur pour moi de formuler ça, parce que c'est des trucs auxquels je ne crois pas, mais c'est les évangiles et éventuellement quelques apôtres. En premier lieu, Paul de Tarse, qui est un apôtre, pas au sens compagnon de Jésus. On pouvait utiliser le terme d'apôtre en ce sens-là à l'époque. Paul de Tarse. Il est question de Paul de Tarse plusieurs fois. C'est ce qui fait que page 116, par exemple, il défend les apôtres contre les théologiens. Les théologiens se permettent de dire « Oui, dans ce passage des apôtres, c'est pas très bien expliqué, on comprend pas très bien, donc je vais faire mon commentaire, puis ce sera plus simple. » Évidemment, Erasme, ça le fait hurler. C'est ça sa formule à Erasme, page 115-116. « Il est fréquent que les apôtres évoquent la grâce, mais ils ne recourent nulle part à une distinction entre la grâce octroyée gratuitement et la grâce gratifiante. » Ça, c'est des formules de la théologie, en fait, de la théologie scolastique. La grâce gratifiante, la nature naturante, la nature naturée. Les théologiens adorent ces trucs-là. Donc, évidemment, là, c'est une manière de prouver le ridicule du discours enflé des scolastiques. Donc, le discours qu'Erasme est lui-même en train de faire, à quoi il sert? C'est pas le discours de la vie bonne. C'est pas le discours qui va remplacer la théologie. Erasme n'est pas là pour ça. Ça a finalement, contrairement à ce que nous disait la folie au début, une fonction comparable à celle du sermon. C'est une parole qui ramène à la parole. La parole est un grand P. Mais ce n'est pas une parole qui en détourne, qui noie le poisson dans une espèce de brouillard théorique. Donc voilà une des choses à laquelle sert le discours d'Erasme. À quoi ça sert de faire un éloge de la folie? Ça sert non pas à faire une leçon de sagesse, mais ça sert à indiquer là où se trouve la sagesse. Qu'est-ce qu'une vie bonne? Voilà, c'est la question que se pose Erasme. Alors lui, il donne une réponse que moi, je ne peux plus recevoir. Et c'est une de mes difficultés par rapport à ce texte. Si je le compare à presque tous les autres dont j'ai parlé ici, c'est que pour moi, dans presque tous les autres textes, il y a une espèce d'art de vivre caché qui est valable pour moi, qui m'alimente quotidiennement. La solution que donne Erasme, moi, j'y crois pas. Mais ça n'empêche pas que ça m'indique des directions. Ça m'indique lesquelles? Ça me dit deux choses, déjà. Ça m'aide à repérer que il n'y a pas 36 scénarios que l'humanité se raconte à elle-même pour se dire où est le bien. Il y en a deux, en gros. Il y a l'âge d'or, c'était mieux avant. Et il y a l'apocalypse, mais alors au sens étymologique, au sens de départ, de révélation, c'est-à-dire le meilleur est à venir. L'Apocalypse, au départ, ça ne veut pas dire la fin du monde. Ça veut dire la gloire du monde. C'est le moment où le monde, ça va être génial. C'est une espèce de paradis retrouvé. Et clairement, la réforme, mais écoutons-le bien maintenant, ce mot de renaissance, lui aussi, la réforme et la renaissance sont des mythes de l'âge d'or. C'est des mythes qui consistent à dire « c'était mieux avant ». Et cet avant, redonnons-lui vie. Renaissance. Les Grecs, les Latins vivaient mieux que nous. Imitons-les. Dans nos textes d'abord, mais aussi dans notre vie. Mais l'Apocalypse, le modèle apocalyptique, au sens, encore une fois, au sens étymologique, hein, c'est-à-dire le meilleur est à venir, c'est un autre récit possible. C'est par exemple le récit que reprend Marx, et que reprend tout le communisme. C'est un problème de récit. C'est-à-dire un récit, ça s'étale sur du long. Je vis de ça. Mon travail, c'est ça, c'est de produire du long. Le critique Jean-Paul Gou qui dit que le roman, c'est la fabrique du continu. Contrairement au poème, par exemple, ou même à la pièce de théâtre. Un roman, c'est produire du continu. Moi, mon boulot, c'est de produire du continu. Et ce que je remarque, en effet, et que je ne fais pas que déplorer, d'ailleurs, c'est que l'époque n'est pas au continu. L'époque n'est pas au récit. Voilà, il y a ces deux grands types de scénarios. Un scénario de refuge dans le passé, soit pour le réactualiser, soit pour s'y enterrer. Hein. On connaît aussi ces tournures-là. Plutôt un récit qui est orienté vers du futur, ou vers du conditionnel, selon les cas. Et que Erasme, lui, il n'est pas encore au stade où il peut proposer de l'apocalyptique, c'est-à-dire du bonheur à l'horizon. Par contre, Diderot, lui, pourra le faire. Ça y est, Diderot, il peut le faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la science. Il s'est passé la science qui est venue, et qui continue aujourd'hui malgré tout, hein, à affirmer un modèle de représentation de la destinée humaine qui repose tout le temps sur le nouveau, c'est-à-dire sur l'expérience. L'affirmation de la méthode expérimentale comme la base pour affirmer que quelque chose est vrai, ça consiste à dire on a tout le temps besoin de faire des nouvelles expériences. Et c'est ça dont Diderot est le premier récipiendaire, qui est à la fois capable de comprendre ce qui se passe en science et de le traduire en philosophie. Ça, c'est déjà sensible dans Neveu de Rameau, mais c'est particulièrement sensible, c'est pour ça que c'est un texte qui m'est cher, dans Le rêve de D'Alembert, qui est un recueil de 3 textes, en fait, et qui est un autre petit texte, grande œuvre. Voilà, l'idée, donc, pour finir, hein, c'est qu'on ne vit plus dans le monde d'Erasme, c'est-à-dire que la littérature n'a plus, ou ne peut plus, renvoyer à un discours fondamental qui est extérieur à elle. On ne peut plus dire, non mais les gars, on ne peut plus dire avec un pamphlet ou un truc comme ça, non mais les gars, revenez à l'essentiel, revenez au discours essentiel, revenez à la vie du Christ, ou revenez à la vie des anciens. Non. La littérature, aujourd'hui, il faut qu'elle avance les 2 trucs en même temps. Il faut qu'elle décape, et il faut en même temps qu'elle propose de la cosmogonie. Qu'elle propose une vision du monde vivable, quoi. Il faut qu'elle fasse les 2 choses en même temps. C'était pas le cas d'Erasme. C'est même pas le cas de Rabelais au moment où il invente le roman moderne. Il y a encore, même s'il s'en moque, même si c'est plein de dérision, le christianisme, il est fort. Même s'il est débattu, même s'il est condamné, même s'il est en réforme, il est puissant dans Rabelais. Aujourd'hui, on n'a plus de grands récits de cet ordre-là. Pas en Europe, pas dans tous les pays, il faudrait voir, mais... En France, en tout cas, c'est une évidence. En Espagne, en Angleterre, on est dans des situations assez comparables. Il n'y a pas de grand récit de ce qui fait l'humanité. Et dans l'ordre de la littérature, là où c'est passionnant, c'est qu'il faut essayer d'avancer ces 2 trucs en même temps. Cumuler ce travail d'ironie, ce travail de dessillage qui est très fort dans l'éloge, et en même temps proposer une manière d'habiter un peu l'environnement dans lequel on se trouve. Et je suis content de vous parler de ce truc-là, parce que je crois que c'est aussi l'une des recherches de l'auteur qui est en rencontre aujourd'hui à 17h, là, Pascal Dessin. C'est vraiment quelqu'un, notamment, qui, à travers la question écologique, essaye, à travers le roman vert, ce qu'il appelle le roman vert, et non pas roman noir, essaye d'imaginer une façon d'habiter l'endroit où on se trouve. Essaye de proposer un petit peu de grands récits, quelque chose comme de l'habitabilité, s'il fallait inventer un terme.